marchant. Orchan, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchan, ce soir en compagnie de Emmanuel Bayamak Tam. Emmanuel Bayamak Tam, vous êtes écrivain, vous êtes aussi enseignante, vous êtes l'auteur de très nombreux livres. Le premier s'intitulait « Raie de cœur », il y a eu « Pauvre mort »,« Hymen »,« Le triomphe »,« Une fille de feu »,« La princesse d'eux »,« Mon père m'a donné un mari »,« Si tout n'a pas péri avec mon innocence ». Je dis tous ces titres parce qu'ils sont indicatifs de votre style, de votre nature d'écriture. Le dernier s'intitule « Je viens ». Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que vous avez construit une écriture qui ressemble à une musique, avec des personnages qui ressemblent à des figures, figures qui peuvent s'apparenter soit à des figures de bande dessinée, soit à des personnages qu'on entrevoit dans la rue. Comment avez-vous cru en vous et en votre écriture? Est-ce qu'elle s'est instaurée comme ça? Est-ce qu'elle s'est délivrée toute seule? Ou est-ce que ça a été le fruit d'un long travail?
Ah oui, c'est le fruit du travail. Comment est-ce que j'ai cru en moi? Alors déjà, je suis pas très sûre, même aujourd'hui, de croire en moi, même si avec le temps, j'ai l'impression que j'ai du métier et que aujourd'hui, je peux effectivement me dire écrivain, mais je me le disais pas du tout il y a 20 ans. Ou quand j'ai commencé à publier. Donc je travaille. Rien ne se fait seul, rien ne se fait sans moi, rien ne s'installe ou ne s'instaure facilement.
L'acte d'écrire
quand j'écris, parce que c'est pas tout le temps. Pareil, hein, c'est quelque chose à quoi je m'astreins, même si c'est beaucoup de plaisir, c'est aussi beaucoup de contraintes, beaucoup de discipline, et des heures de travail, de correction, de suppression.
Vos sources d'inspiration?
Livresque, très clairement. C'est-à-dire que souvent, les choses s'installent à partir d'autres textes que les miens. Mais il y a aussi effectivement des rencontres, des événements vécus. Mais souvent, à la source de ce que j'écris, il y a du Michaud, du Baudelaire, du Ovid, du Racine, du Gombrowicz ou que sais-je. Même si ça se voit peu.
Ça se voit peu.
Je l'exhibe plus ou moins suivant les livres. Depuis peu, je l'exhibe. J'exhibe ces sources, j'en fais la
parce que vous les citez,
oui. Voilà. Oui. Mais il fut un temps où j'écrivais à partir d'une phrase ou d'un demi-vers de Rimbaud et personne n'en savait rien.
Donc c'est votre amour de la littérature qui vous a conduit à penser qu'un jour vous allez écrire.
Ah oui, mais chronologiquement, je pense que c'est ça pour la plupart des écrivains. On est d'abord lecteur et ensuite on a envie de passer à l'acte ou pas. En tout cas, moi, j'ai eu envie de passer à l'acte. Et de fait, aujourd'hui encore, je lis beaucoup plus que je n'écris.
Et vous vivez moins que vous n'écrivez?
Oh là, quelle question difficile. Non, je vis pleinement et intensément. Alors c'est vrai que dans les périodes d'écriture, peut-être que la réalité passe un peu au second plan. Mais comme je vous le disais, je n'écris pas en permanence.
Quand on vous lit, effectivement, on peut penser que quelquefois ce sont des exercices d'écriture auxquels vous vous astreignez parce que vous vous fixez des contraintes. On peut imaginer, par exemple, que vous êtes une petite fille de Georges Perec, que vous auriez pu, ou que vous faites peut-être partie, puisque ça existe toujours, de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Et en même temps, vos livres, chacun d'entre eux, est animé par des thématiques ultra contemporaines. Donc comment vous mariez à la fois ces contraintes littéraires très précises et cette écriture très serrée avec ces sujets qui nous tiennent tant à cœur?
Alors c'est drôle que vous parliez de l'Oulipo et de contraintes formelles parce que J'ai l'impression que rien n'est plus éloigné de mon écriture que ce genre de contraintes précisément. Enfin, moi, il me semble que ça me stériliserait un petit peu, même si par ailleurs, j'adore Perret, que je suis très intéressée par ce que Loulipo a pu apporter à la littérature au moins française. Mais non, j'écris pas du tout à partir de contraintes. Et en revanche, pour ce qui est du caractère très contemporain de mes thématiques. Oui, ça me semble pas incompatible avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec le fait que je brasse aussi et du Baudelaire et du Racine. Hein. Il y a quelque chose qui tient un peu de l'hybridation, je pense, dans mon écriture. S'il y a une contrainte, elle est là, hein, dans cette volonté peut-être de métisser, de tisser ensemble des choses qui, a priori, sont très éloignées.
À moi, le récit d'un commencement qui n'est pas le mien. De toute façon, il faut bien commencer. À moi, ce souvenir qui ne m'appartient pas. De toute façon, les souvenirs n'appartiennent à personne. Leur nature est trop incertaine pour que nous nous targuions d'une propriété. La distinction entre eux et les rêves trop ténus pour que nous fondions sur la mémoire quelque certitude que ce soit, à commencer par celle d'avoir vécu quelque chose. Ça, c'est un extrait donc d'un de vos livres qui s'intitule « Si tout n'a pas péri avec mon innocence ». Superbe titre pour un livre qui est basé sur le principe d'incertitude, y compris sur l'incertitude de notre propre existence.
Alors oui, là, c'est vraiment un mot que je peux reprendre à mon compte, hein, l'incertitude, l'indétermination, qu'elle soit sexuelle ou générique, hein, ou l'instabilité que dans laquelle j'écris et que j'assume de provoquer chez le lecteur. Là, oui, effectivement.
Alors, vous venez de parler d'incertitude sexuelle. Or, au fond, la plupart de vos livres qui sont en fait des suites, comme on peut dire, une suite musicale, au sens d'une partition. On voit que vous reprenez des thématiques, vous reprenez des personnages, vous reprenez des prénoms de personnages, à des années de distance dans certains de vos livres, et que la plupart de ces livres sont tissés autour de la problématique de l'indétermination sexuelle.
Alors oui, effectivement, dès le premier que j'ai publié, Red Cœur, c'était l'histoire d'un garçon qui finalement aurait bien aimé être une fille et qui un jour enfile une robe rouge dans le désert du Namib et sa vie s'en trouve changée. Et j'ai souvent des personnages, effectivement, de filles enfermées dans des corps de garçons qui se rêvent femmes, de femmes qui se rêvent hommes. Et effectivement, je poursuis ça de livre en livre, mais parce que il faut dire aussi que le format du livre, alors là, pour le coup, est une contrainte, et que souvent, on a envie de déborder de livre en livre. Et du coup, finalement, quand j'ai l'impression que je suis pas allée assez loin dans une thématique ou avec un personnage, oui, je le reprends et je le déplie dans d'autres sens et je pousse un peu l'exploration plus loin.
Qu'est-ce qu'un corps ?
Ah, le corps, c'est alors déjà c'est vraiment ce que nous avons en commun et puis en même temps c'est vraiment l'assignation à résidence aussi, c'est-à-dire c'est ce dans quoi nous sommes enfermés. Alors oui, nous pouvons un peu le transformer, le modifier à la marge. Hein. Je parle beaucoup de ces métamorphoses du corps, que ce soit le tatouage, la scarification, le régime, ça m'intéresse. Mais ce ne sera jamais qu'à la marge. Et finalement, j'écris depuis ce corps, vous me lisez depuis ce corps, et elle est peut-être là la plus grande contrainte. Donc comment ne pas parler du corps ? Moi, je suis toujours étonnée. Quand on me renvoie au fait que je parle du corps, je me demande toujours comment font les autres pour ne pas en parler.
Oui, mais le corps, c'est pas simplement le corps physique, mais parce que vous êtes aussi un écrivain des métamorphoses du corps et des soi-disant difformités du corps qui nous permettraient pas d'être regardés comme des êtres à part entière. C'est aussi un de vos thèmes. Mais il y a aussi le fait que notre corps à une apparence telle que c'est la manière dont l'autre, avec un grand A, vous voit. Et c'est ça qui semble vous intéresser beaucoup.
Alors, c'est vrai que moi, mes propres goûts, mes propres désirs, mes propres émotions esthétiques, finalement, peuvent naître de corps, perçus comme déviants, difformes. Là aussi, je suis toujours très étonnée quand on me renvoie à des critères de beauté plus orthodoxes, parce que moi, j'ai des personnages qui effectivement vont être regardés comme monstrueux et que je trouve personnellement très beau. Et j'essaie d'imposer cette beauté bizarre un peu de livre en livre.
Alors parlons d'un de vos personnages principaux qui est affecté, je sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, en tout cas qui souffre de ce qu'on appelle un bec de lièvre. Et vous en faites un personnage presque magnifique, une sorte de déesse qui aurait quelque chose de plus, alors qu'aux yeux de la société, elle a quelque chose de moins.
Alors Gladys, c'est la mère, c'est la mauvaise mère, même dans « Si tout n'a pas péri avec mon innocence », et c'est vrai qu'elle naît avec un bec de lièvre, qui ne l'affecte absolument pas, et elle, on voit très bien qu'elle décide...
Sa mère non plus.
Voilà, oui, elle décide dès l'enfant de se
consulter. Parce que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que sa mère ne porte pas sur elle un regard...
Aimant.
Si, elle l'aime comme elle est, ça fait pas tellement un problème finalement.
Alors entre Gladys et sa mère, non, effectivement, même si... Bon, moi, je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'amour entre elles deux. Mais c'est surtout que Gladys, finalement, elle se vit comme une séductrice. Et du coup, effectivement, elle plaît, elle séduit. Elle décide, à la quarantaine venue, de se produire comme stripteaseuse. Et finalement, voilà, elle le fait.
Sans problème.
Sans problème, même si elle rencontre pas un franc succès. Mais là-dessus, enfin, moi, je pense qu'il faut être un peu volontariste, hein, et décider de qu'on est beau si on a envie, sinon on a envie de l'être. Et le reste suivra. Après, c'est vrai que le bec de lièvre de Gladys, moi, je l'ai pas tant vu comme une infirmité que comme, enfin, c'était un peu la bouche aussi, la bouche qui profère des paroles d'humiliation, de relégation. Je pensais à ce que dit la bouche d'ombre d'Hugo. Il y avait vraiment cette idée de la bouche maternelle dont on sait bien que peuvent sortir des paroles terribles et qui peuvent peser sur les enfants. Voilà, mais de fait, c'est vrai que c'est une infirmité et qu'elle s'en sort très bien néanmoins. Cela dit, c'est pas un personnage très aimable.
Mais ils sont pas très aimables, vos personnages, d'une certaine façon, parce qu'ils ont leur propre indépendance qui peut apparaître comme de l'arrogance. Ils n'en ont rien à faire du regard des autres sur eux-mêmes. Ils avancent dans la vie avec une sorte de résolution assez fantastique.
Alors, c'est vrai que j'ai souvent des personnages de...
Ils n'ont pas de morale.
Pas du tout. J'ai des personnages de missionnaires, de redresseurs de tort, des gens qui trouvent que finalement la vie est mal faite, que le monde marche un peu sur la tête et qu'il faut remédier à ça. Et l'intérêt de ces personnages, qui sont très divers, hein, de livre en livre, c'est Daniel dans un livre, Sharon dans un autre, Kim dans un troisième, c'est que ils sont comme des flèches tendues, ils sont rigides, ils traversent l'existence comme ça avec cette idée d'une mission, de choses à arranger. Et en même temps, comme ils sont rigides, ils peuvent très facilement être brisés. Et ce sont des personnages aussi à qui on peut faire tenir des discours de blâme, de vitupération. Donc sur le plan romanesque, c'est très intéressant.
Vous vous mettez souvent à la place des enfants, et on reviendra sur ce dernier roman magnifique qui est un ode à toutes les différences, à l'acceptation de toutes les différences, sans sombrer pour autant dans le discours humanitaire. Mais c'est aussi ça un de vos thèmes, Emmanuel Bayamaktam. C'est comment... À partir du moment où on n'est pas désiré, à partir du moment où on est au monde, on n'est pas forcément désiré, comment on va réussir à s'imposer dans ce monde qui ne vous convient pas forcément? Comment on va réussir à s'y faire une place?
Alors, c'est vrai que une de mes ambitions, on va dire, c'est de montrer quand même, d'écrire une espèce de comédie inhumaine et de montrer effectivement que la vie est mal faite, et en particulier que l'amour n'est pas aimé ou qu'il n'est pas toujours aimé. Et j'ai souvent des personnages qui sont très aimants et qui ne rencontrent que indifférence ou mépris, et ce qui arrive dans la réalité, comme chacun sait, et ce qui est très troublant, parce que dans un monde où tout irait bien, finalement, l'amour rencontrerait l'amour. Or, ça se passe rarement comme ça. Et donc, j'ai souvent ces personnages qui sont des espèces de forces désirantes et aimantes, et qui se trouvent un peu blackboulé, un peu ostracisé par les autres. Et j'ai oublié votre question.
C'était cette espèce de constance force, ouais. Dans vos personnages. Ils vont réussir à se faire admettre par les autres alors que les autres n'en veulent pas.
Oui, c'est vrai. Alors après, l'intérêt d'avoir des personnages qui sont très jeunes, c'est qu'on les montre en formation, ce qui est aussi intéressant sur le plan romanesque. Et dans mes deux derniers livres, en plus, finalement, la force, elle se construit à partir de lecture. C'est-à-dire que aussi bien Kimberly dans Si tout n'a pas péri avec mon innocence que Sharon dans Je viens, sont de grandes lectrices et puisent une certaine force dans ces lectures.
Nous allons écouter la voix de Claude Simon, c'était au micro de Georges Charbonnier, il va s'exprimer sur la construction du roman, c'est une archivina du 1er janvier 1957.
Le roman traditionnel, en somme, pour lui, le problème était simple, Il s'agissait d'exprimer des choses qui se déroulaient successivement, donc qui se déroulaient dans le temps, et on les exprimait successivement en les mettant à la suite des autres. Or, j'ai le sentiment, quand je travaille un livre, plutôt quand j'ai l'idée d'un livre, j'ai plus que le sentiment, c'est une sorte d'éclat. Enfin, j'ai raconté dans plusieurs interviews, ça s'est passé exactement comme ça. Pour La Route des Flandres, je venais de finir L'Herbe, j'avais travaillé la dernière correction. J'étais avec mon éditeur, j'étais dans un car qui nous ramenait d'Etretat. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je lui dis, ben, je pense à un roman maintenant. Au moment où j'ai dit ça, dans un dixième de seconde, j'ai tout vu. Donc, il s'agissait
oui,
pas...
Mais alors, est-ce que vous accepteriez qu'on dise que le roman, c'est un instant et toujours?
Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je crois de plus en plus pour moi, oui. Maintenant, il y a...
Moi, je me dis que c'était peut-être aussi comme ça pour Stendhal. Je crois que c'était comme ça.
On l'a dit à propos d'Ostoïevski. On a dit que tous les romans d'Ostoïevski, ces énormes romans, se déroulaient en un dixième de seconde. Ça, c'est Gide, je crois, qui l'avait observé.
Il n'y a même pas de temps du tout.
À propos d'Ostoïevski, n'est-ce pas? Il l'avait observé. Pour moi, je l'ai senti avec une intensité, particulièrement à propos de La Route des Flandres. Parce que ce n'est pas du tout une histoire, c'est uniquement un faisceau de sensations, de visions, les unes réelles, les autres imaginaires, qui sont venues se grouper autour d'un fait central qui était la mort de cet officier devant moi. Alors, autour de cette mort, tout un faisceau est venu se grouper, dans un seul instant. Et alors, il a fallu que je traduise ça dans le temps, alors que c'était simultané. J'ai bien aimé ce qu'a dit un critique, d'un Bernard Pingot, dans Les Temps modernes, qui a dit que c'est un roman qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Et c'est exactement, en somme, ce que j'avais chez lui.
Oui, et ce qui techniquement se traduirait à la limite par une phrase prise dans son cours, poursuivie et abandonnée avant sa fin.
C'est ça.
Nous venons d'entendre la voix de Claude Simon. Je vois que vous souriez, Emmanuel Bayamaktam, et j'ai l'impression que Claude Simon est peut-être une de vos sources d'inspiration.
Alors, non, on peut pas dire ça, même si j'aime beaucoup, enfin, La Route des Flandres, je trouve ça merveilleux. Non, ce que je trouve très éclairant, c'est ce que je viens d'entendre là, et bon, que j'avais jamais entendu jusqu'à présent, parce que, ça me parle, hein, cette idée d'un faisceau, de choses qui viendraient se cristalliser autour de, d'autres choses, hein, là en l'occurrence la mort de cet homme, cette idée de faisceau de concordance, ça me parle beaucoup. L'idée aussi d'un roman qui finalement ne serait qu'un instant, ça renvoie un peu à la façon dont j'écris moi. D'ailleurs, moi j'ai toujours le même dispositif, hein, qui sont des récits qui tiennent un peu du discours intérieur et qui sont toujours au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, parce que finalement je crois pas beaucoup
au passé.
Ce sont des monologues et effectivement je suis pas sûre qu'il y ait toujours un début et une fin et un milieu dans mes livres, donc ça me parle. Après que La Route des Flandres lui soit apparue entièrement en un instant, ça renvoie à rien de connu pour moi, mais oui, je comprends très bien ce qu'il raconte là.
Ils auraient voulu nous tuer, qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement. Et qui peut m'assurer que ce n'est pas ce qu'ils voulaient? À défaut de mourir, nous n'avons pas vécu, ce qui revient au même. Ou plutôt, nous ne devons qu'à nous le peu d'existence que nous avons réussi à sauver du néant auquel on nous destinait. Ça, c'est un tout petit extrait de Je viens. Tout à l'heure, on a lu un tout petit extrait d'un autre livre précédent il y a quelques années. Et à chaque fois, cette espèce de sentiment de l'inexistence. Est-ce que vous êtes relié à un questionnement qui a été exposé dans le courant existentialiste? Est-ce que vous vous raccrochez à ce courant-là? D'où ça vient, cette espèce de sentiment de vacuité, de...
Oh, ça c'est un sentiment très très humain, je pense, et auquel nous sommes tous confrontés avec plus ou moins d'acuité suivant les individus, j'imagine. Mais moi, enfant, j'avais l'impression de devoir lutter en permanence contre l'inexistence, très clairement. Et je pense que beaucoup de mes récits s'ancrent dans ces expériences que nous faisons tous, je pense, enfants, hein, de l'inexistence, de la déréliction, de l'humiliation, de la pulvérisation. Pas besoin de grandir dans une famille particulièrement maltraitante ou dysfonctionnelle pour les vivre, ces expériences-là. Et Et oui, comment exister finalement? Bien sûr, nous nous posons tous la question, l'écriture est une réponse, et dans mes récits, mes personnages sont constamment, leur intégrité est constamment menacée, leur existence est constamment menacée, et parfois par ceux-là même qui devraient la conforter, à savoir les parents.
Pourquoi?
Pourquoi?
Ben pourquoi?
Pourquoi cette rage contre la famille qui s'exprime de livre en livre? Oula,
Rage écrite avec un humour corrosif.
Ah mais toujours, bien sûr. Hein,
c'est pas de la dénonciation, hein.
Non, et puis...
C'est pas famille, je vouais.
Non, c'est pas famille, je vouais, ce qui serait un énoncé beaucoup trop lapidaire pour résumer mes livres. Et
Vous êtes une anti-Mauriac.
Est-ce que je suis une anti-Mauriac? Oui, peut-être. En même temps, j'ai beaucoup lu et beaucoup aimé Mauriac autrefois. Bon, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire finalement sur la famille. En tout cas, j'ai l'impression que j'en ai peut-être fini avec ce cycle familial, du moins j'espère.
Bah peut-être parce que vous avez inversé pendant plus d'une décennie tous les rapports générationnels. Vous les avez même inversés. Vous avez créé des personnages, notamment dans ce dernier roman, je viens d'une petite fille dont personne ne veut, qui a été adoptée. Donc vous avez bousculé tout ce qu'il y a de sacro-saint biologique dans la famille.
Oui, avec des enfants qui sont souvent
plus forts que les parents.
Oui, ça, c'est vraiment un de mes thèmes récurrents. Mais parce qu'on, ça m'intéresse de montrer que finalement, avec leur immaturité, les adultes sont parfois incapables de répondre, de remplir leur tâche éducative. Et oui, effectivement, il y a souvent plusieurs générations sous un même toit dans mes livres avec des glissements de l'une à l'autre.
Vous étiez plus forte que vos parents quand vous étiez petite?
Ce que mes parents aiment se raconter, je ne suis pas sûre, non. L'enfant est toujours plus faible. C'est bien sûr. L'enfant est en position de subordination, de suggestion et de faiblesse. Et c'est ça qui est insupportable dans l'enfance, pour peu qu'on s'en rende compte, parce qu'on peut aussi passer son enfance sans s'en apercevoir. Mais moi, je me souviens que j'avais hâte de grandir pour pouvoir cesser d'obéir, quoi.
Vous aviez déjà votre monde dans la tête.
Oui, alors là aussi, je pense comme tous les enfants, j'ai l'impression que l'enfance, c'est vraiment le moment où le monde du dedans est beaucoup plus important que le monde du dehors. Et après, ça s'inverse. Et finalement, avec Je viens, j'ai beaucoup parlé du monde du dedans, au moins pour ce qui est de Sharon, la première narratrice.
Comment elle s'est inventée, cette petite fille?
Sharon, dans ce livre-là, dans Je viens, ou dans les autres? Parce qu'en fait...
En fait, vous êtes comme... un conteur, vous mettez des petits cailloux blancs dans plusieurs de vos livres, et finalement c'est comme un jeu de piste, votre écriture. Chaque livre a finalement ses petits signaux secrets, et il y a des résonances à l'intérieur de vos personnages d'un livre à l'autre. Sharon, elle a été peut-être conçue dans votre imagination il y a peut-être une dizaine d'années, parce qu'on en trouve des traces fantomatiques dans des romans précédents.
Oui, elle est là, peut-être même dès le premier livre, même si elle ne s'appelle pas Sharon, je pense qu'elle est là, et puis dans Imen, elle est clairement là. Alors après, ça n'a rien de... C'est pas aussi prémédité, aussi délibéré que ce que vous avez l'air de dire, hein, ces signes que j'aurais semés. Rétrospectivement, je les vois. Sur le coup, c'était moins conscient que ça.
Oui, mais n'empêche qu'elle est là dans votre tête, peut-être depuis l'enfance, cette petite fille.
Alors,
cette petite fille dont personne ne veut, cette petite fille qui a été abandonnée, cette petite fille qui est adoptée par des gens qui ne l'aiment pas, cette petite fille qui va se métamorphoser et qui n'est jamais aimable et qui d'ailleurs n'a pas du tout l'intention de l'être.
Ah, c'est drôle que vous disiez ça, parce que moi je la trouve quand même aimable, mais...
Elle s'en moque d'être aimée.
Oui, bah forcément, puisqu'elle est tenue pour quantité négligeable par ses parents. Oui, sûrement, hein, sûrement que Sharon s'ancre très, très loin et très profondément chez moi.
Nous allons écouter Annie Ernaux au micro de Sylvie Nicolet, qui va expliquer comment elle est devenue enseignante. Vous êtes enseignante aussi, mais vous n'avez pas encore abandonné votre métier d'enseignante. Elle va évoquer sa conscience de la différence de classe et son souci de ne pas vouloir heurter la culture des élèves qu'elle avait en face d'elle. C'est une archive du 1er mars 1999.
quand je me suis remise à écrire, c'était après être devenue professeure. Et l'école, justement, a joué un rôle très important dans mon écriture, parce que j'ai été professeure en Haute-Savoie, c'était mon premier poste, c'était en 67, et c'était donc des élèves qui parlaient un patois que moi, normande, je ne comprenais pas. Hein, qui avaient des mots, ils ne parlaient pas un patois, mais ils avaient des mots que je ne comprenais pas. C'était des enfants souvent de décolteurs, c'est un métier manuel de Haute-Savoie. Et brusquement, moi, je me suis retrouvée dans plusieurs de ces enfants. Dans une grande partie de ces enfants, je me souviens d'une classe de sixième, parce que ça allait de la sixième à la terminale, une classe de sixième, de se dire, mais au fond, moi aussi j'ai été cet élève qui ne sait pas parler, qui est meilleur à l'écrit qu'à l'oral, qui n'ose pas, qui est timide. Ensuite, j'ai fait retour sur ma propre histoire.
Néanmoins, vous étiez là pour les rééduquer, entre guillemets.
Bien entendu, il s'agit pas de... il s'agit pas du tout de les laisser dans une culture qui est considérée comme dominée. Mais il faut faire attention de ne pas heurter leur culture, justement.
Nous venons d'entendre Annie Ernaux. Aimez-vous ces textes et considérez-vous que le métier d'enseignante, je crois en littérature, que vous exercez, contredit ou augmente votre désir d'écrire?
Ah oui, Annie Ernaux, oui, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment des textes importants. C'est un auteur magistral et ça compte pour moi, Annie Ernaux, ce qu'elle a pu écrire, ce qu'elle écrira encore.
Cette idée de ne pas contredire les élèves en face d'elle, d'accepter, est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre métier d'enseignante ?
Non, pas du tout. Je cloisonne beaucoup quand même, c'est-à-dire que quand j'enseigne, je pense pas à l'écriture, et quand j'écris, je pense peu à mes élèves, mais bien évidemment, ça déborde quand même un petit peu. Je dirais que, moi j'enseigne dans la proche banlieue parisienne, je me reconnais pas du tout dans mes élèves, et plus je vieillis, moins je me reconnais, puisque forcément l'écart d'âge se creuse. C'est mon pied dans la réalité aussi, hein, d'être prof dans un lycée avec des classes parfois un peu difficiles. J'ai pas du tout envie d'arrêter complètement d'enseigner. J'aimerais avoir plus de temps pour écrire clairement, mais en même temps, je pense qu'il est salutaire pour moi que j'enseigne, et que j'enseigne à l'endroit où je suis, c'est-à-dire dans un lycée de banlieue avec les élèves que j'ai. Et je pense que ça, c'est une réalité à laquelle j'aurais pas du tout eu accès si j'étais restée à Marseille ou si j'avais fait un autre métier. Donc je suis assez reconnaissante à l'Éducation nationale de m'avoir placée dans cette position-là, finalement.
Comment transmettre l'amour de la littérature ?
C'est très, très, très difficile, puisque j'ai parfois affaire à des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Ça marche plus ou moins bien. Ça marche parfois au culot, ça marche parfois... on passe un peu en force, hein, mais ça marche, hein, ça continue à marcher. Hein. Voilà, ne croyez pas ceux qui tiennent un discours catastrophiste sur l'enseignement aujourd'hui et sur les élèves d'aujourd'hui. Pas du tout. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de Madame Bovary à ma classe de TL. Il y a des retours. Ils l'ont lu, parfois ils l'ont relu. Ils ont des choses à dire. Non.
Et cette transmission de l'amour de la littérature, ça passe par l'explication ou ça passe par très très peu de mots ? Comme dans vos personnages, Emmanuel, où ils ont une conscience intérieure, mais ils sont assez taiseux, vos personnages.
Oui, c'est vrai, il parle peu. Non, bien sûr que la transmission, l'enseignement, ça passe par les mots de l'enseignant, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on est sourd à ce que disent les élèves, mais non, il faut beaucoup parler, beaucoup, beaucoup expliquer.
Et vos élèves vous apportent quelque chose, comme vient de le dire Annie Ernaux ?
Ah oui, bien sûr. Pas forcément sur les textes, hein, mais oui, bien sûr, je vous dis, ils m'ouvrent sur une réalité qui me serait très étrangère sans eux.
Alors, on n'a pas parlé de votre style. On a dit tout à l'heure que c'était un style très corrosif, que à la fois l'indignation sociale, qui est aussi un de vos thèmes, est toujours accompagnée par beaucoup, beaucoup d'humour. Et il y a beaucoup de dialogues dans vos textes. Est-ce que dans la manière dont vous construisez vos dialogues, vous puisez dans la langue que vous entendez chez vos élèves? Parce qu'il y a une manière, alors là, ultra moderne, c'est même pas moderne le mot, je cherche le mot ultra, c'est pas moderne, c'est pas contemporain, une manière très novatrice oui. d'inscrire dans vos livres, qui sont donc de oui. la littérature, une nouvelle langue.
Alors oui, autant dans les parties narratives ou de discours intérieurs, je veux que la langue soit acrobatique et sophistiquée, voilà. autant dans les dialogues, il faut viser la justesse, ou alors passez-vous de dialogue. Et on parlait tout à l'heure de ce que m'apportent les élèves, très clairement, j'entends parler une langue qui est très jeune, qui est très réactive, qui est très mobile et qui n'est pas du tout la mienne, et que j'intègre suivant les livres, oui, bien sûr. Pour le dialogue, je pense qu'il faut viser la justesse, ou alors... s'en passer complètement.
On a compris que depuis longtemps, vous construisez des livres pour dire l'indignation, la révolte, l'absence de soumission. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette révolte, elle est la tentative d'appropriation de soi dans un monde qui vous est hostile. Et c'est aussi... des livres que vous construisez depuis longtemps, Emmanuel Bayamaktam, sur cette société qui devient de plus en plus méprisante pour les différences. Le dernier, Je viens, est très teinté de ces bruits du monde, de plus en plus racistes, de plus en plus insistants sur la discordance non acceptée.
Oui, alors à ceci près que je suis pas dans le pamphlet ni le roman à thèse, hein, mais bien sûr j'écris avec mes agacements et avec mes indignations, ce qui fait que j'ai souvent des personnages d'ailleurs qui sont effectivement eux-mêmes des personnages en colère. Et si les romans pouvaient de temps en temps être des petites entreprises de démolition des préjugés et de la bêtise, ce serait bien.
Que la bamboula soit toujours là pour écluser ses jérémiades, retrouver ses clés égarées, l'accompagner à la messe ou au bistrot, voilà qui ne l'a pas dévié d'un pouce dans son projet de spoliation. Régis et Gladys avaient beau fulminer, crier au gaspillage, à l'argent jeté par les fenêtres, son horreur viscérale des noirs et des bougnoules était plus forte que son amour et son sens du devoir paternel. Je n'ai jamais trop su ce qu'il pensait des Juifs, mais sa façon de ricaner quand nous rencontrions des patronymes sémites ou qu'il supposait tels était à elle seule édifiante, et je crois que j'ai bien fait de ne jamais soulever la question en 45 ans de mariage. Ça, c'est un très court extrait du dernier livre « Je viens ». D'où il vient votre nom, Emmanuel Bayamaktam ?
Orson Camerounais, c'est le nom de mon ex-mari. C'est vrai que c'est un nom un peu, aux consonances un peu mystérieuses. On ne sait pas trop si c'est africain, asiatique.
Et vous l'avez gardé ?
Oui, il m'y a autorisé et je l'en remercie. C'est mon nom de plume finalement, c'est presque un pseudonyme. Et bon, pourquoi vous me posez la question ?
Parce que je pense que vous avez vécu certaines situations
oui.
que vous réussissez magnifiquement à nous restituer, quoi.
Oui.
Vous êtes poreuse par rapport à ce que vous avez traversé dans la vie.
Oui. D'ailleurs, ce racisme très primaire, oui, bien évidemment, j'en ai été le témoin, sinon la victime. Hein. Je me rappelle d'un voisin très âgé dans un bel immeuble parisien qui m'appelait la femme du nègre. Et j'ai pensé à lui en écrivant « Je viens ». Il est sans doute mort aujourd'hui, mais c'est ma vengeance. Oui, et en plus j'écris dans les cafés, donc j'entends parfois aussi des conversations qui ne me sont pas destinées, mais qui sont de la même teneur que celles que je rapporte dans Je viens. Alors après, c'est vrai que je concentre sur une ou deux conversations des choses que j'ai entendues au fil du temps, mais je n'ai rien inventé.
Vous avez combien de personnages dans la tête ?
Ah, beaucoup. Oui, j'ai tout un petit personnel romanesque à mon service, que je convoque de livre en livre.
Vous avez lu Lewis Carroll, oui. Alice, c'est un peu vous.
En tout cas, c'est une lecture très très importante pour moi, Alice.
Vous êtes romantique, malgré les apparences.
Oui, je pense qu'en fait, je le suis. Alors pas au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Hein. Je suis pas d'une mièvrerie, ni mièvre, ni. Je pense pas être écrire des choses à l'eau de rose. Et en même temps, le romantisme, dans ce qu'il a d'outrancier, le mélange des registres, le goût du grotesque et du sublime, oui, ça, c'est bien moi.
Nous allons écouter une de vos idoles, je crois savoir. C'est Jane Campion. qui va évoquer son travail de cinéaste, sa technique, avec un extrait de ce film sublime, forcément sublime, La leçon de piano.
The way that I shoot a film, or the shots that I use, again, they're very, I think about it quite a bit, but it's also just really always about.
Je réfléchis beaucoup aux plans que je choisis, mais à mon avis, les plans doivent servir l'histoire.
What the scene needs, how to
telle ou telle scène va avoir besoin de tel ou tel élément, de la tension ou de la fluidité, par exemple.
And, or to create
parfois,
a sense of space
il faut créer une sorte d'espace autour du personnage, ou au contraire, il faut qu'il y ait un manque d'espace autour du personnage.
I'm kind of fascinated by these problems and I, you know,
ces questions me fascinent, mais ce n'est pas intuitif pour moi. Il faut que je réfléchisse beaucoup à tout cela. Puis, lorsque la solution semble être à portée de main, là, je me lance.
It's another language.
C'est un vocabulaire en soi.
And it also has to be consistent.
Et ce vocabulaire doit être cohérent.
And I guess this is the job of the director.
Et c'est le travail du réalisateur.
Serve the story
c'est au réalisateur
as they can
de servir l'histoire
so
autant que faire se peut avec le vocabulaire
story,
de la réalisation pour
it.
Soutenir l'histoire sans nuire à l'histoire.
Fuck them! What you're leaving behind is what they fucking want.
A pox on you. Oh, I like that. Very good. Leave them and be lynched for the pleasure. That is.
It's a bit rough out there. Could be they can't get through to you in this weather.
Do you have things for shelter?
She says thank you.
Does your mother prefer to come on with us to Nelson?
Alors, Jane Campion.
Mais comment vous savez que j'aime Jane Campion? Je crois pas en avoir parlé, mais oui, j'aime beaucoup. Un ange à ma table, Sweetie, enfin, et la leçon de piano, bien sûr, mais. Oui, elle aussi, elle va chercher ses personnages dans les marges, et il y a une fantaisie très débridée chez elle, qui fait que, oui, je trouve que c'est vraiment une très grande réalisatrice.
Et puis elle va très loin dans la tentative d'explorer les recoins les plus secrets de la sexualité féminine aussi, comme vous.
Oui, c'est vrai, ça nous fait au moins un point commun, super.
Alors je vais lire ce que vous écrivez à propos d'un des personnages que vous avez inventé, qui s'appelle Alexandrine, dans ce texte qui s'intitule « Mon père m'a donné un mari ». Voici ce que dit Alexandrine. « Je ne grandirai pas, maman, mais si ça te fait plaisir de croire que je ferai comme les autres et que je serai rattrapée par la réalité, crois-le. En attendant, ce que j'aimerais, c'est voir un garçon. Il me semble qu'avec un garçon, j'arriverai à quelque chose, que je ne serai pas obligée de me frotter jusqu'au sang, le père. Si tu étais une bonne mère, tu lui amènerais un garçon au lieu de lui acheter des céréales et de lui servir du lait au miel. La mère, avec moi aussi, tu aurais voulu qu'il y ait un garçon, tu te rappelles? Un garçon payé par toi et qui m'aurait fait ce que tu ne pouvais plus me faire. » Voilà, ça c'est du Emmanuel Bayamaktam.
Mais ça, c'est oui, c'est une pièce de théâtre en fait. Hein, oui. Mon père m'a donné un mari que j'ai écrite en même temps que Si tout n'a pas péri avec mon innocence. Et mon père m'a donné un mari, c'est vraiment l'argument classique hein, de parents qui veulent alors, non pas marier leur fille comme chez Molière ou Marivaux, mais lui trouver un amant parce qu'elle est incapable de s'en trouver un. Et bon, c'est vrai que là, dans le passage que vous avez lu, il y a une espèce de concentré de toutes mes thématiques finalement.
Oui, mais ces thématiques, elles se retrouvent aussi dans le dernier, avec ce personnage de Sharon. On parle de Sharon depuis le début de cette émission. Ce qu'on a oublié de dire, c'est quand même peut-être le plus important, c'est que Sharon, c'est pas comme Sharon Stone, ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit comme le métro. Pourquoi ?
Et ben du jour où je l'ai écrit comme le métro, le reste a suivi. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve cette orthographe, C-H-A-R-O-2-N-E, beaucoup plus poétique que l'orthographe anglo-saxonne. Et en même temps, dans Sharon, bien sûr qu'il y a Sharon Stone. Et dans d'autres livres, je fais le rapprochement. Et après, c'est vrai aussi qu'il y a cette espèce de coïncidence tragique, hein, parce que Sharon, c'est une station de métro de sinistre mémoire. Et en même temps, on peut penser à Sharon dans la mythologie. Enfin, c'est vraiment un prénom qui, du jour où je l'ai écrit finalement, en francisant un peu son orthographe, m'est apparu comme très riche et très, très poétique.
Vous avez aussi écrit un livre absolument extraordinaire qui s'intitule « Mes morts ». Et cette mort, elle est là absolument tout le temps présente dans vos livres.
Pauvre mort.
Pauvre mort.
C'est joli.
Pourquoi
aussi, mes morts.
Ouais.
Alors, pauvre mort, justement, pauvre mort, c'est Rimbaud, c'est Baudelaire, c'est pauvre mort dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Donc, c'était déjà un livre travaillé par la poésie, mais je ne l'exhibais pas comme je l'ai fait par la suite. C'est vrai que c'est un livre autour de le grand âge, le devenir du corps après la mort, qu'est-ce qu'on va en faire, et si on se faisait empailler. Donc, c'est un livre en même temps que j'espère très drôle. Et, oui, la mort dans la vie, c'est quand même le sujet par excellence.
Et ça, quand vous étiez petite, vous y pensiez déjà à la mort ?
Non, j'étais plutôt dans le déni, mais là aussi, comme beaucoup d'enfants, dans le fantasme d'immortalité. J'y pensais, mais de façon très, très fantasmatique, très romanesque, en fait. Je crois que je ne savais pas du tout ce qu'il en était.
Je vais mourir et c'est un soulagement. En plus, ça va emmerder tout le monde, à commencer par ma mère, obligée d'enterrer sa sœur et sa fille dans la foulée, elle qui avait sûrement prévu l'inverse. Ça, c'est la fin.
Oui, alors ça, c'est...
Je viens.
Gladys, c'est plutôt... Alors, je parlais de mort dans la vie, du fait que c'est la thématique fondamentale, ce que nous faisons de cette idée de la mort dans nos existences. Mais pour Gladys, c'est encore autre chose. C'est finalement... Il n'y a pas de vie. Elle est déjà morte, d'une certaine façon. Elle ne sait pas trop que faire de cette vie... Elle aussi, alors c'est, oui, finalement ça se rejoint, c'est aussi la mort dans la vie, mais c'est le fait de ne pas savoir vivre, de ne pas savoir comment on fait avec les possibilités infinies qu'ouvrent l'existence. Et donc c'est une espèce de mort avant la mort. Donc finalement, à la fin, on ne sait pas trop si elle meurt ou pas, mais ça n'apporte pas grand changement pour elle.
Je vais mourir et ça tombe bien, mon père est là. Oui, elle sait plus. Elle sait plus comment... ce qu'il faut faire et comment elle peut parvenir à ce qu'il faut faire pour pouvoir mourir que pour pouvoir vivre.
Oui, elle n'a jamais su vivre. Elle s'est toujours cantonnée dans une espèce de... Oui, de elle s'est organisée autour de la jérémiade, de la plainte, et elle a oublié que, voilà, oui, qu'on pouvait... alors, pas aimer, parce qu'elle aime quand même, mais changer, grandir... voilà, elle a un peu végété, Gladys. C'est un personnage qui n'a pas, un de ces personnages d'adultes qui n'ont pas vraiment mûri.
Je viens est élu par vos élèves? Vous leur avez offert?
Non, jamais. Non, non. Je n'aborde jamais le sujet de ma propre initiative. Hein, j'attends qu'ils m'en parlent. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est rarissime qu'un élève vienne me dire qu'il a lu un de mes livres. Je pense que certains le font, mais que ça les inhibe de m'en parler. Je vois pas d'autre explication parce que je sais que certains me lisent. Mais je n'ai jamais eu de commentaires, de retours, de jugements, ou même simplement, au dernier cours que j'ai fait, il y a une élève qui m'a dit, elle est en train de lire votre livre. Mais c'est pas l'élève elle-même qui me l'a dit. Et je trouve ça assez troublant, mais je pense que ça s'explique par la timidité, l'inhibition.
La dernière phrase de votre dernier livre, c'est, et la vie, de toute façon, je ne saurais qu'en faire, sauf à la recommencer du début.
Mais ça, je pense que c'est valable pour beaucoup de gens qui nous entourent. Cette idée qu'on ne sait pas trop qu'en faire de la vie. Voilà, donc on la gaspille un peu, on la gâche un peu en faisant, en faisant comme Gladys, quoi. En s'empêchant de vivre, en se racontant des histoires qui l'empêchent de vivre.
Oui, mais vous avez la chance de pouvoir enseigner Madame Bovary.
Voilà.
Ben, merci beaucoup, Emmanuelle Bayamaktam. Je rappelle que tous vos livres sont publiés aux éditions POL et que le dernier s'intitule « Je viens » et que c'est à mettre dans toutes les mains.
Merci, Laura Adler.
Merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.